On a tous quelque chose en nous de 68, semaine spéciale sur notre antenne et sur le site internet de France Inter. Et le grand entretien de la matinale est aux couleurs de mai 68, justement. Notre invité était l'un des leaders du mouvement. Son visage est dans les livres d'histoire, aux côtés de ceux de Daniel Cohn-Bendit et de Jacques Sauvageau. Il avait 29 ans à l'époque, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. Bonjour Alain Gesmard.
Bonjour.
Et bienvenue. Il faut vous souhaiter bon anniversaire.
Pas spécialement, c'est pas la bonne date.
Non, c'est vrai. J'en ai marre. Je ne suis pas un gardien de musée. C'est ce que déclarait Daniel Cohn-Bendit dans le nouveau magazine littéraire. Vous souscrivez ?
Je souscris pour une grande partie, sauf que je suis là ce matin, ce qui est une contradiction.
Et on vous en remercie.
Mais je pense que l'heure est maintenant aux historiens et aux archivistes. Pendant 50 ans, on a entendu les témoins. Avec leur subjectivité, il est temps de revenir aux documents.
Les documents, mais malgré tout, il y a les histoires vécues, il y a les témoignages. C'est important, les témoignages. Est-ce que pour vous, Alain Gesmard, il y a quelque chose à célébrer, à penser, éventuellement à oublier peut-être aussi ?
Célébrer, je trouve que ça n'a aucun sens. Les célébrations, les commémorations, en plus, ça aurait fait beaucoup rire. Les manifestants de 68, c'est le moindre... Hurler de rire, enfin.
Hurler de rire.
Et en plus, ces manifestants avaient une hantise qui était la récupération. À mon sens, ils avaient tort. C'est très intéressant que la société ait récupéré 68 pour beaucoup d'éléments. Mais enfin, c'était comme ça. Donc, toute cette 68 mania est quand même... Bon, très excessif.
Mais on est là aussi pour faire un exercice d'inventaire. Qu'est-ce qu'il faut penser de mai 68 ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui pour vous, Alain Gesmard ?
Il reste le plus grand mouvement social du siècle passé et même du siècle actuel. En plus d'un mouvement social qui a obtenu un certain nombre d'évolutions conséquentes sur les salaires, le droit du travail, le syndicalisme, même si à l'époque, des gens comme moi, on avait tendance à sous-estimer ces avancées sociales en estimant que ça pouvait aller beaucoup plus loin. On n'était pas tout seul. Il y a beaucoup de gens, y compris les gens qui occupaient les usines, qui pensaient qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et quand Segui, par exemple, est allé à la régie Renault pour leur dire qu'il était temps d'arrêter, il s'est fait siffler. On a les témoignages, là.
On a les témoignages. Est-ce que vous vous définissez comme 68ard ?
Non, je ne me résume pas. J'ai bientôt 79 ans, ma vie ne se résume pas à 3 semaines en 68.
Mais 68ard, c'est un gros mot ou est-ce que c'est un beau mot, Alain Gesmard ?
Oh ben c'est encore un beau mot. Je veux dire, moi je ne vis pas dans la nostalgie. Je vis plutôt dans le temps présent et futur depuis toujours. Mais bon, sinon je n'aurais même pas fait ce que j'ai pu faire en 68.
On oscille constamment en France entre la célébration, la commémoration de mai 68 et la volonté de liquider mai 68. C'est curieux comme cet épisode suscite les passions, des passions contradictoires, sans jamais qu'on arrive justement à faire ce travail apaisé de l'histoire que vous appeliez de vos voeux.
Les liquidateurs ou ceux qui se veulent les liquidateurs de 68 sont des gens qui d'abord réduisent 68 à sa dimension festive et colorée, à la libération sexuelle, que sais-je, avec une espèce de jubilation salace devant la manière dont les jeunes se sont éclatés et libérés de toute une série de contraintes en 68. 68... c'était, je le répète, le plus grand mouvement social du siècle.
Et même du côté des étudiants, des manifestants du monde universitaire, votre 68 à vous avait l'air assez sérieux lorsque le 7 mai vous êtes à la radio et que vous débattez, que vous interpellez le vice-recteur en lui demandant de libérer tous ceux qui ont été arrêtés au cours des manifestations. On n'a pas le sentiment que pour vous, c'est été un moment de joie.
Bah, pas encore. La Sorbonne n'avait pas été réouverte, les occupations d'usines n'avaient pas commencé. Ce qui a libéré réellement un mouvement massif de joie, de sentiment de liberté, un immense sentiment de liberté. C'est pas un hasard si c'est aussi la période de Sartre. Enfin, la liberté était. Bon, c'est le début de l'occupation des usines. C'est l'occupation de la Sorbonne qui a lancé l'occupation de toutes les facs en France et l'occupation de Sud Aviation qui a lancé le mouvement social proprement dit. En même temps, tout ça, les prémices de tout ça existaient.
Ouais.
À l'étranger, ça vient d'être dit. Enfin, à l'international, un peu partout. Moi, j'ai encore sous les yeux, enfin devant les yeux, l'image des étudiants yougoslaves avec le portrait de Tito jeune pour rappeler que le vieux Tito qui exerçait le pouvoir avait trahi ses ambitions de libération du pays, enfin de libération, pas de libération de la guerre, mais de libération des initiatives de la vie. Enfin, Et puis 67 a été en France alors l'année dans laquelle il y a eu le plus de mouvements sociaux, de grèves, d'occupations d'usines. CRSSS s'est sorti au Mans dans des barricades contre les réformes de la sécurité sociale par les jeunes ouvriers du Mans.
Vous l'avez repris ce slogan d'ailleurs ?
Moi,
c'est ce qui paraît le plus étonnant 50 ans après.
Moi, personnellement,
Bernard Guetta dit moi non plus, mais vous, Alain Gesmard, vous ne l'avez jamais ordonné.
Petit enfant juif né juste avant la guerre, je pouvais pas reprendre à mon compte un pareil slogan. Mais il est sorti. Il est sorti des poitrines des manifestants en face des cortèges de CRS. C'est ça l'image qu'ils en avaient.
Quel regret avez-vous par rapport à ces événements, à ces mouvements ?
Je pense que l'intensité des mouvements nous a fait oublier qu'une partie de la population n'était pas avec nous. Je pense que l'intensité du mouvement nous a donné l'espoir qu'un certain nombre de choses allaient changer radicalement plus tard.
Parce que pour vous, ça a été un début.
On sait quand même, c'était qu'un début. Et donc, nous avons eu... En tout cas, un certain nombre d'entre nous avons eu l'illusion qu'il pouvait y avoir une continuité heureuse, un début que la suite de ce début serait nagerait dans le bonheur. Bon, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé.
Pas vraiment. Qu'est-ce que ça représente mai 68 pour un jeune de 20 ans aujourd'hui ?
Ah ben, vous lui demanderez.
Mais vous en croisez malgré tout.
Oui, j'en croise, mais enfin, c'est quand même à eux de parler. Moi, ça fait 50 ans qu'on me pose des questions. La parole, je vous dis, demander ce que les jeunes pensent. Enfin, je veux dire, imaginez que quelqu'un, qu'un ancien combattant de 1917 ait posé la question à un manifestant de 68 sur ce qu'il doit penser. Mais ça aurait, c'est pareil, ça aurait fait hurler de rire.
Eh ben, merci d'en appeler justement aux jeunes de 20 ans. S'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de nous dire ce que représente mai 68 pour eux, leurs questions sont évidemment les bienvenues dans le grand entretien de France Inter. Alain Gesmard, vous restez avec nous. Tout de suite, les questions de Léa Salamé. Il est 8h31 de 1968 à 2018.
Oui, Alain Gesmard, de 1968 à 2018, dit Ali, vous avez voté pour Emmanuel Macron, comme les ex-68ards d'Annie Cohn-Bendit et Romain Goupil. Est-ce que c'est surprenant ou au fond c'est normal parce que Macron serait l'héritier de mai 68 ?
Je pense que mai 68 n'a pas d'héritage.
Mais Macron...
Il est mort intestat.
Mais allons au bout. Est-ce que, au fond, le fait que mai 68 ait généré l'individualisme, est-ce qu'au fond... Emmanuel Macron incarnant aujourd'hui une forme d'individualisme, est-ce que ça, il n'y a pas une filiation ?
Mai 68 a incarné l'individualisme, c'est vous qui le dites.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
C'était, non, pas du tout. C'était le mouvement le plus collectif que j'ai jamais eu le bonheur de croiser dans ma vie.
C'est la thèse de Jean-Pierre Le Goff notamment, qui pense que oui, le gauchisme culturel l'aurait emporté au prix d'une dépolitisation de la société et d'une montée de l'individualisme.
Écoutez, Léa Salamé, Jean-Pierre Le Goff fait son miel avec ça, parce qu'il a, quand il veut attaquer 68, il est obligé de le réduire à cette dimension culturelle et hédoniste. Mais simplement, c'est une, pour quelqu'un qui se prétend scientifique comme lui, c'est simplement une grave erreur, même une faute.
Non, donc pour vous, c'était un mouvement social avant tout. Il ne faut pas réduire 68 à sa dimension hédoniste et individualiste.
Il y avait une dimension hédoniste dans 68, c'est l'évidence. Surtout au bout d'un certain temps, et qui a pris toute sa dimension une fois que les femmes ont surgi dans le mouvement dans les années 70. Parce que en 68, elles étaient dans le mouvement, mais elles n'apparaissaient pas. Elles n'étaient pas dans les figures de proue. C'est devenu un mouvement de libération totale à partir de quelques années plus tard, dans les années 70, quand le MLF est sorti des limbes.
Mmh. Les Insoumis aujourd'hui, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, vous voyez quelque chose de 68 en lui ?
Non, rien du tout, non.
Pourquoi ?
Ça me paraît un mouvement complètement ringard qui fait penser aux anciens mouvements communistes, à l'Union soviétique et à tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens.
Ah bon ? À ce point ?
Ah oui, absolument.
D'accord. Et Macron, vous trouvez que c'est un rebelle contre le système, comme dit Romain Goupil ?
Je n'irai pas jusque-là. Moi, je ne fais pas partie de la France En Marche. J'ai voté pour Emmanuel Macron avec détermination et sans la moindre hésitation, parce qu'il nous a quand même épargné Fillon-Le Pen. Excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. Donc, très bien, et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils réussissent pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on risque d'avoir à faire des choix impossibles.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, semble, en tout cas à l'heure où nous parlons, faire passer assez facilement sa grande réforme du baccalauréat, du lycée et Parcoursup, l'entrée à l'université. Comment vous expliquez que ça passe aussi facilement ?
Eh bien, écoutez, il y avait en 68 trois fois plus d'étudiants qu'en 58. Il y en a aujourd'hui 10 fois plus qu'en 68. Les contextes n'ont strictement rien à voir. Ça ne ressemble en rien. Il y avait le plein emploi. Il y a des difficultés considérables d'insertion des étudiants dans l'emploi aujourd'hui. On n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, ces comparaisons...
Mais vous qui êtes,
Excusez-moi, ce sont des comparaisons pour médias.
Non, mais là, je ne comparais pas... Je vous posais une question actuelle. Vous êtes spécialiste de l'éducation. Vous avez conseillé, notamment Bertrand Delanoë, sur l'éducation. Je voulais votre avis sur la réforme de Blanquer.
Écoutez, il y a des choses surprenantes dans les projets de Blanquer, et il y a un certain nombre de choses. Mais sur l'entrée à l'université, d'abord, je suis pas sûr que ce soit lui vraiment. Il y a un ministre d'enseignement supérieur, à ma connaissance, une ministre d'ailleurs. Et
vous avez le sentiment qu'il fait avancer l'école, Blanquer, ou que c'est le retour à l'école à l'ancienne ?
Je pense les deux. C'est peut-être le fameux en même temps de Macron. Il y a des choses qui résonnent comme un retour à l'école communale que j'ai connue dans les années 49-50. Et puis, il manque les blouses grises, mais
il n'est pas contre le retour de l'uniforme.
Bon, peut-être. Et puis, il y a des éléments extrêmement modernes, comme le fait de faire rentrer les neurosciences dans la réflexion. Alors, encore faut-il qu'elle ne soit pas la dominante et qu'elle ne bloque pas tout le reste.
Histoire à suivre. Quel est votre slogan préféré de mai 68, Alain Gesmard ?
Libérer nos camarades.
Pas mal, c'est effectivement ce que vous réclamiez donc à l'antenne d'RTL le 7 mai 1968 face au vice-recteur de la Sorbonne. Le grand entretien continue avec vous Alain Gesmard et les questions des auditeurs. Et nous sommes en ligne avec Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour monsieur, messieurs, mesdames. En 68, les mouvements avaient pour vocation de débarrasser la France de Charles de Gaulle et des gens qui la tenaient depuis la libération à peu près. Les gens qui ont fait mai 68, je pense à des gens comme Bernard Kouchner, Serge Julie ou vous, monsieur Gesmard, vous êtes restés aux affaires jusqu'en 2007-2008 à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un paradoxe ? Vous avez voulu débarrasser la France de gens qui la tenaient depuis 20 ans, vous y en êtes resté 40.
Réponse Alain Gesmard.
Ça, c'est cash.
C'est cash, dit Léa.
Ben oui, c'est vrai.
Oui, en 68, quand le mouvement a démarré, il y avait trois revendications. Libérer nos camarades, réouvrir la Sorbonne et ouvrir le débat sur le fonctionnement des universités. il n'était pas spécialement question de débarrasser la France du général de Gaulle.
Mais le paradoxe qu'évoque Benjamin, voir que les 68 heures ou de nombreux 68 heures ont ensuite dirigé la France pendant 40 ans, pour reprendre son expression.
Oui, mais je voudrais quand même répondre au début de sa question. Si le général de Gaulle n'avait pas envoyé les CRS pour essayer de réprimer le mouvement et ultérieurement dans un certain nombre d'endroits pour faire rentrer les grévistes dans les usines, les choses, il n'aurait probablement pas été attaqué comme ça. C'était pas dans la logique du mouvement qui était... à l'époque, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient plutôt admiratif de son comportement sur la scène internationale avec la tenue face aux Américains sur le Vietnam, qui avait encore des souvenirs de la libération, parce que c'était pas loin, qui avait encore, et c'était tout près, les souvenirs de la fin de la guerre d'Algérie. Donc ça s'est mis en place, ce mouvement anti-gaulliste, si on veut, c'est mis en place au fur et à mesure de l'action et de la répression.
Et le paradoxe que pointait Benjamin, n'est-ce pas paradoxal de voir que ces mêmes 68 heures ont ensuite dirigé la France pendant 40 ans ?
Diriger la France, moi j'ai pas le sentiment d'avoir dirigé la France. J'ai participé à des actions gouvernementales, c'est certain, mais... parce que je trouvais que ce que faisait, par exemple, quelqu'un comme Lionel Jospin, c'était bien. C'est aussi bête que ça.
Nous sommes en ligne avec Denis. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
Votre question à Alain Gessmar.
Tout à fait. Je vais poser la question à M. Gessmar. Je comprends qu'il ait fait écran au Front National, puisqu'il a voté Emmanuel Macron. Et que pense-t-il du projet d'Emmanuel Macron, qui est dépolitisé à l'extrême? Il me semblerait que ce même Macron veut gouverner la France comme on manage une entreprise. Je prendrai la déclaration du Premier ministre. Je compte sur les égoïsmes individuels pour tuer la mobilisation des cheminots dans l'œuf. Et contrairement justement à mai 68 où le peuple s'est retrouvé vraiment solidaire et fraternel, et M. Gessmar l'a bien indiqué, ce qui a permis finalement de grandes avancées sociales. Donc j'aimerais connaître la position de M. Gessmar sur le nouveau Macron depuis qu'il gouverne.
Il va vous répondre, Denis.
Écoutez, le fait d'avoir voté pour quelqu'un ne m'amène pas forcément à trouver merveilleux tout ce qu'il peut faire. Je regarde ce qu'il fait au coup par coup. Je suis parfois un peu surpris et parfois agréablement surpris et parfois désagréablement surpris. Je peux vous dire par exemple que l'attitude à l'égard des réfugiés est quelque chose qui aurait plutôt tendance à me hérisser.
On retourne au standard avec une question de Yasmine. Bonjour Yasmine.
Bonjour, bonjour Ali Badou, bonjour à votre invité. Je vous remercie pour la qualité des émissions que vous faites sur France Inter et que j'écoute à différents moments de la journée.
Merci de nous écouter.
Une question très... Et je ne savais pas que c'était aussi facile de poser des questions aussi.
Vous voyez, je
vous en remercie et j'invite tous les auditeurs à poser des questions et parce qu'on est agréablement reçus sur France Inter. Voilà, juste une question, une question d'observatrice de la société, je vais dire. J'ai l'impression qu'à tous les niveaux dans la société, il y a un énorme besoin de partage, d'échange, de communication, de co-construction, de réduction des inégalités, de travail ensemble, de réflexion collective, etc. Et je suis désolée de vous poser cette question parce que ça nous oblige à regarder vers l'arrière et moi ce qui m'intéresse c'est de regarder devant. Mais je me demande si on ne se dirige pas inexorablement vers un autre mai 68 et si ce ne serait pas d'ailleurs souhaitable, peut-être dans des formes différentes à créer ensemble, mais parce que je pense qu'on est un peu resté au milieu du guet et je pense qu'il reste beaucoup beaucoup de choses à faire.
Merci pour votre question, Yasmine. Réponse, Alain Gessmar.
Bon, écoutez, j'ai été tout à fait passionné en marchant devant à une certaine époque. Maintenant, la place est pour vous. Si vous attendez de quelqu'un qui a bientôt 80 ans de prendre la tête d'un mouvement, vous vous trompez de personne.
Et pourquoi pas, Alain Gessmar ? Mais comment expliquez-vous qu'un tel mouvement ne se soit jamais reproduit depuis 50 ans ? Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il nous fascine encore aujourd'hui.
Oui, et pourquoi Louis XIV n'est pas encore roi de France, je me pose toujours la question.
Bon, écoutez, c'est une manière de me répondre. Question de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Votre question, Alain Gessmar.
Oui, alors je voulais poser, comment se fait-il que lors de la grève du 15 mars, ben, il y avait très très peu de jeunes, d'étudiants avec vous dans les rues. On dirait que bon, le problème des retraités qui touche plusieurs millions de retraités avec cette hausse tout à fait injuste de la CSG, une action tout à fait méprisable, on pourrait dire que c'est le bannissement des retraités. On vit ça comme une véritable humiliation, puisqu'il n'y a que cette catégorie sociale professionnelle, que cette tranche d'âge qui est touchée par cette hausse sans compensation. Parce qu'on nous parle de la taxe d'habitation, mais c'est une utopie, la taxe d'habitation.
Alors Alain Gessmer va vous répondre, Jean-Pierre.
Écoutez, s'agissant des jeunes, c'est aux jeunes eux-mêmes, je l'ai déjà dit, de faire leur chemin. Et ça n'a aucun sens que les anciens combattants leur donnent des conseils. Bon. Et quant aux retraités, je pense qu'ils sont assez nombreux dans ce pays pour prendre leurs affaires en main.
Merci infiniment Alain Gessmar, appel à la mobilisation. Donc, merci d'avoir été notre invité, Léa, à suivre le carrefour du 7-9 avec l'édito média, l'histoire politique, la revue de presse.
Et l'humour de Sophia Aram.